VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, affrontement entre forces de sécurité et manifestants de l'opposition criant Ali Bongo doit partir aujourd'hui. À Libreville, juste après l'annonce officielle de la réélection du président Bongo. Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes pour repousser les protestataires qui voulaient s'approcher du siège de la CENAP, la Commission électorale nationale. L'opposition conteste la réélection du président Bongo, qui a obtenu à peine 5594 voix de plus que son principal rival, Jean Ping, sur un total de 627 805 électeurs inscrits. Et elle annonce son intention de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle gabonaise. L'opposition conteste tout particulièrement les résultats dans la province du Haut-Ogooué, le fief du président Bongo, où la participation électorale a été de plus de 99% et M. Bongo a obtenu plus de 95% des voix. Pour une analyse de la situation, rejoignons Jean Mouissi, qui se trouve au Canada et qui est un expert sur le Gabon.
Je constate que les résultats me semblent totalement décorrélés de la réalité du vote des Gabonais. La province du Haut-Ogooué, province d'origine du président de la République, a eu un taux de participation qui avoisine 100%. Ça voudrait dire que dans cette province, entre le moment de l'inscription sur les listes électorales et le moment du scrutin, il n'y a eu aucun mort, il n'y a eu aucun blessé hospitalisé le jour du scrutin. Il n'y a eu aucune personne en déplacement en dehors de la province et qui devait voter. Les personnes qui étaient hospitalisées sont certainement sorties de l'hôpital pour aller voter. Voyez-vous, ça me paraît tellement atypique que je ne crois pas en la réalité des chiffres de la province du Haut-Ogooué.
Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Jean Ping rejette ses résultats et les jeunes sont descendus dans la rue.
Ce qu'il faut craindre, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux Gabonais, je pense d'ailleurs la majorité des Gabonais, pensent qu'Ali Bongo n'a pas remporté les élections présidentielles. À ce titre, on peut penser que des gens, comme c'est déjà le cas à Libreville, vont descendre dans la rue pour essayer de revendiquer leur victoire. Malheureusement, nous constatons que le régime d'Ali Bongo a utilisé la force, puisqu'au moment où je parle, je crois que Jean Ping a déjà annoncé qu'il y aurait eu 3 morts dans les rues de Libreville.
Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays ont demandé à ce que les votes soient comptés bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que pour vous, c'est une stratégie qui peut régler la situation?
Cette demande me relève du bon sens. Lorsqu'on a dans une localité, dans une province tout entière, un taux de participation de l'ordre de 100%, cette province a une dizaine de départements. Ça voudrait dire que dans 10 départements, il y a environ 100% des inscrits qui sont allés voter. Je pense quand même qu'il faut s'arrêter et regarder bureau de vote par bureau de vote. C'est le minimum que l'on puisse faire pour garantir la sérénité à l'issue de ce scrutin. Parce qu'on se dirige manifestement vers de la violence post-électorale. Ce n'est pas bon pour le pays, ce n'est pas bon pour la sous-région dans un contexte où les pays voisins, notamment le Cameroun, est déjà tourmenté par des terroristes dans le nord. On ne peut pas prendre le risque de déstabiliser la sous-région pour des raisons politiques parce qu'un leader n'a pas gagné convenablement les élections et essaye éventuellement de s'imposer en modifiant les chiffres issus des urnes.
Jean-Maïs Mouissi, expert et promoteur du site maïsmouissi.com, au micro de John Lyndon. Il nous parlait depuis le Canada. RDC, condamnation à 3 ans de prison d'un proche de l'opposant Moïse Katumbi à Lubumbashi. 8 Molongo, ancien directeur de cabinet de M. Katumbi, a été reconnu coupable de détention illégale d'armes à feu, ce que démentent ses avocats qui qualifient le procès de politique, Eddy Sango.
C'est un verdict de la honte, a déclaré Maître Kasukula, un des avocats de 8 Molongo. Les condamnés détenaient bien l'autorisation des ports d'armes depuis 1996, selon l'avocat. Le major Ghislain Kabeya, président du tribunal militaire de Lubumbashi, dans le sud-est du pays, indique que M. Molongo est condamné à 3 ans de prison ferme car un revolver a été retrouvé à son domicile. Mais pour l'avocat, les poursuites contre M. Molongo, arrêtées le 26 avril à Lubumbashi, sont liées plutôt à l'appartenance politique de M. Molongo, car son client avait claqué la porte de la majorité présidentielle en même temps que M. Moïse Katumbi. Messieurs Moulongo et Katumbi, comme tous les opposants, accusent le président congolais Joseph Kabila de manœuvrer pour reporter la présidentielle. Monsieur Katumbi, parti pour des soins à l'étranger, a été inculpé pour recrutement de mercenaires et condamné à 3 ans pour spoliation immobilière. Les autorités entendent l'arrêter dès son retour dans le pays. La condamnation de M. Moulongo intervient à la veille de l'ouverture du dialogue national qui boycotte une frange de l'opposition qui exige, entre autres, la libération des prisonniers politiques et la fin des poursuites contre des opposants sous divers prétextes.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Zimbabwe, la police anti-émeute patrouille aujourd'hui dans les rues des principales villes après l'appel à plusieurs mouvements de contestation lancés par des groupes d'opposants au président Robert Mugabe. Tous les détails avec Bagasi Koura.
Les camions de police anti-émeute sillonnaient ce matin le centre-ville de la capitale Harare où l'appel à la grève du mouvement Tayamouka, qui veut dire « nous sommes agités », était assez peu respecté selon l'AFP. À Bulawayo, la deuxième ville du pays et bastion de l'opposition, la police a déployé des canons à eau à l'endroit d'une manifestation prévue par un autre mouvement de contestation anti-Mugabe, Bulawayo Youth Arise, qui veut dire en anglais « la jeunesse de Bulawayo s'élève ». Selon le porte-parole du groupe Tayamouka, Hardlife Muzingwa, la protestation ne cessera pas tant que Robert Mugabe n'aura pas quitté le pouvoir. Depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe connaît un mouvement de contestation anti-Mugabe d'une rare ampleur qui résiste à la répression du régime. Les manifestants, principalement issus de la société civile, réclament le départ du président au pouvoir depuis 1980, qu'ils accusent notamment d'être à l'origine de la faillite économique du pays.
Crise migratoire maintenant, plus de 800 migrants africains qui voulaient rejoindre l'Europe par la Libye et aussi un groupe de passeurs ont été arrêtés au Soudan, près de la frontière libyenne, entre juin et août. C'est ce qu'ont indiqué des responsables des services de sécurité soudanais, les précisions de John Lyndon.
Au total, 816 migrants ont été arrêtés alors qu'ils tentaient d'entrer en Libye, un pays situé à 300 km des côtes européennes. Un groupe de passeurs a également été arrêté après des heures avec les forces de sécurité qui ont coûté la vie à 2 soldats et un officier près de la frontière libyenne. Juma Fdi Mohamed, un passeur tchadien, a expliqué recevoir environ 986 euros pour chaque migrant qu'il a fait entrer en Libye. Le Soudan est un pays de transit clé, notamment pour les Érythréens fuyant leur pays vers l'Europe. Des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne tentent chaque jour de rejoindre la Libye, d'où ils embarquent pour une dangereuse traversée vers l'Europe. Lundi, environ 6500 migrants ont été secourus au large de la Libye, un chiffre record selon les gardes-côtes italiens qui ont coordonné les opérations.
Présidentielle américaine 2016, c'est aujourd'hui que le candidat républicain Donald Trump doit prononcer le discours très attendu sur son projet de réforme de l'immigration. Ce dossier de l'immigration illustre les différences de perspectives entre la candidate démocrate Hillary Clinton et Donald Trump, à commencer par la question de savoir que faire des quelques 11 millions de sans-papiers vivant actuellement aux États-Unis. Timothée Dounangmaï.
Donald Trump a laissé entendre que sa priorité sera de renvoyer tous ces étrangers chez eux. Hillary Clinton, elle, dit qu'elle expulsera en priorité les violents criminels parmi ces sans-papiers. Dans une interview l'année dernière sur la chaîne NBC, le candidat républicain avait dit qu'il veut supprimer le 14e amendement de la Constitution américaine qui accorde à tout enfant né aux États-Unis la nationalité américaine, même quand ses parents sont en situation irrégulière. Selon Donald Trump, cette disposition est, et je cite, « le plus puissant aimant pour l'immigration illégale ». En plus de cela, Donald Trump s'est engagé à ériger un mur le long des 3200 km de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et à en faire assumer le coût par les Mexicains. Le discours qu'il prononcera aujourd'hui dans l'Arizona permettra de savoir s'il a assoupli ses positions sur toutes ces questions ou les maintient.
Et pour terminer le conflit en Syrie, la Turquie a démenti aujourd'hui avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec les milices kurdes syriennes par l'entremise des États-Unis, indiquant ne pouvoir sous aucune circonstance accepter un compromis avec une organisation terroriste. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.